Notre invité de ce question d'actualité du mercredi 8 février, c'est Gabriel Jervis. Gabriel Jervis, vous avez pu le lire récemment à propos de la qualité du français et de la qualité à l'école aussi, dans une lettre faite la différence dans le Journal de Montréal. Il est étudiant à la maîtrise en histoire et détenteur d'un baccalauréat en enseignement au secondaire de l'univers social à l'Université de Montréal. Et aussi, pour ceux qui connaissent un peu la politique, il a été membre des différents organismes de jeunesse pour le Parti québécois et pour la CAQ. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, Julien, ça va bien?
Ça va bien, et toi? Donc, avec toi, on va revenir un peu. Je voulais t'inviter dans le cadre de cette semaine de remplacement où j'ai l'honneur de remplacer Jean-Philippe Trottier, comme à l'accoutumée. Cette semaine, je reçois un peu différents penseurs. Hier, je recevais David Santarossa, avant-hier, Philippe Lorange. Donc, tu passes un peu sur le bistouri et tu vas venir nous parler un peu de ce en quoi tu as l'habitude d'étudier. C'est un sujet qui est d'hier, mais qui est aussi d'actualité aujourd'hui et qui est même très intéressant par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte sociologique du Québec. C'est la thématique de survivance. Donc la survivance d'hier à aujourd'hui, lorsqu'on a discuté un peu de comment on allait agencer cette entrevue. Pourquoi tu voulais nous parler de survivance?
Ben, la survivance en tant que telle, on peut la regarder et faire effectivement des parallèles entre aujourd'hui et hier. Premièrement, cette survivance-là va meubler la mémoire collective, la mémoire nationale. Donc, ça fait partie de notre identité québécoise, ou, si on retourne un peu plus loin, l'identité canadienne-française, mais ce parcours-là, cette espèce de passage-là durant le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, bien, il est fondamental pour comprendre ce qu'on en est au Québec. Donc, savoir si aujourd'hui, on peut retrouver des relents de cette survivance-là ou non.
Et c'est assez intéressant, surtout par rapport à tout ce qui se passe dernièrement, avec un peu ce retour. On en a beaucoup discuté avec différents invités au niveau politique, sur un peu le retour du nationalisme, le souverainisme qui s'est matérialisé sous une forme de nouveau nationalisme québécois avec la CAQ principalement, en opposition un peu à un multiculturaliste devenu religion d'État canadienne et qui cherche à s'imposer par tous les moyens dans les strates de la société québécoise. Donc ça crée un peu des réactions de défense et des réactions qui peuvent, comme tu m'en parlais avant l'entrevue, est vu comme des questions de survivance, d'où l'importance d'analyser ce thème de survivance.
Oui, bien, c'est ça. Ben, au final, si on penche justement sur la survivance en tant que telle, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? C'est qu'il y a en 1240 l'Acte d'Union. L'Acte d'Union, si on se penche un peu plus là-dessus, c'est justement cette espèce d'union-là entre le Bas-Canada et le Haut-Canada pour former le Canada Est et le Canada Ouest. Donc, les Canadiens de l'époque vont subir un changement de paradigme politique et économique. On va voir l'apparition d'un libéralisme moderne qui va prendre le contrôle, mais qui va justement comme s'implanter dans les institutions. De l'autre côté, on va voir l'Église qui va tirer son épingle du jeu à travers même une stratégie. Alors, on pourrait dire que les Canadiens français, pris en étau entre la logique moderne du libéralisme britannique et le contrôle social de l'Église catholique, ben, les Canadiens français sont repliés sur eux-mêmes durant ce siècle afin de trouver des solutions pour leur survie, une survie qui sera à la fois démographique, culturelle et politique. Et c'est ce qu'on pourrait appeler finalement cette survivance qui va partir sur une quête identitaire, mais également sur la naissance d'un nationalisme canadien français.
Il y a eu plusieurs penseurs à l'époque qui ont permis un peu cette fondation de ce nationalisme canadien français. Qui sont-ils?
Ben, les penseurs, en fait, il y a quand même un large bilan historiographique sur la question de la survivance. On va avoir notamment Fernand Dumont, Gérard Bouchard, Éric Bédard, Justin Letourneau qui vont s'être penchés sur la question de la survivance et le rapport à la mémoire. Mais je pense juste avant, c'est essentiel de faire un petit contexte sociopolitique pour voir qu'est-ce qu'il y en a, puisque ces chercheurs-là sont essentiellement penchés sur qu'est-ce qui est arrivé avant.
Totalement.
Donc, si on peut partir d'un point de vue, pour qu'on en arrive à l'Acte d'Union, il faut partir des patriotes, la rébellion des patriotes. Qu'est-ce qu'ils veulent, les patriotes? Ce sont des politiciens, des le peuple qui vient de se battre, mais qui a une idée républicaine derrière. Donc, c'est la souveraineté populaire, c'est justement l'idée de voyons donc, de mettre les droits et libertés, pas les droits et libertés, mais les droits politiques et sociaux avant les libertés individuelles qu'on retrouvait plutôt chez les Grenets et un parlementariste. Malheureusement, ben, ils sont écrasés.
Malheureusement, ils sont écrasés et c'est aussi l'échec.
Ben, c'est l'échec. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on envoie, on dépêche Lord Durham, qui fait son rapport et qui dit, grosso modo, que les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire.
C'est ça.
Alors, la question face à ça, on les réunit et on veut les assimiler. C'est vraiment la clé du casse-tête, la piste manquante, c'est l'assimilation pour se faire. On va, en les assimilant, leur permettre de rentrer dans la marche du progrès. Le progrès qui est un élément fondateur dans le libéralisme moderniste. Donc, ce libéralisme moderniste-là, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui vient jouer avec la révolution industrielle, c'est le progrès dans l'économie, c'est le progrès partout. Et en fait, ce qu'on va leur dire, c'est bon, avec ce développement colonial-là, ben, les Canadiens français vont
prendre. Pouvoir sortir de leur carcan et n'être plus le peuple d'illettré tel que Durham les nommait dans son rapport.
Ben, exactement, parce qu'ils vont finir par être des sujets britanniques. Donc, c'est d'apprendre leurs coutumes et, ben, écoute, c'est le nec plus ultra d'identité à l'époque. Hein? C'était les plus civilisés qu'ils n'avaient pas. Et bien sûr, le libre marché qui va être là, c'est bien important pour faire rouler l'économie.
Donc, que se passe-t-il en opposition à tout cela? Quelle défense se monte? Quel moyen de survivance se monte pour éviter cette assimilation-là? Et il y a plusieurs pro-historiens de l'époque qui ont parlé de François-Xavier Garneau, de Ferretti et tout, et Ducharme, tous ces penseurs-là montraient dès l'époque que pour survivre face à l'assimilation, seule l'Église devenait un peu le rempart et l'instrument pour accompagner un peu la construction du destin québécois.
Oui, oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive après la défaite, justement, c'est une espèce de désespoir généralisé et un sentiment d'infériorité que les Canadiens français vont vivre. Mais ils ont un besoin de lutter continuellement. François-Xavier Garneau, qui est justement le premier historien canadien-français, il va vouloir prouver le contraire à Durham. Il va dire non, c'est pas trop vrai qu'est-ce que le bonhomme y raconte. Donc, il va écrire sur l'histoire canadienne. Il va justement tenter de tout cela pour pouvoir donner soit une tranche de salut, mais également permettre aux Canadiens de s'inscrire dans l'histoire et dans l'avenir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Garneau, pour lui, ben, sa plage de salut, c'est s'inscrire dans une politique d'identité qui est soit l'Église, la langue française et les lois françaises. Donc, c'est assez essentiel. Et d'autres penseurs, comme Lucia Ferretti, va écrire que finalement, c'est l'instrument, l'Église, c'est l'instrument pour accompagner les Canadiens français dans la construction de son destin. Puis en même temps, il y a également l'ultramontanisme qui est présent, il ne faut pas l'oublier. L'ultramontanisme, c'est de quoi qui se veut, qui ne veut pas trop que l'État se promène ou dise des choses au niveau du politique. Puis on en profite parce que l'État libéral, il est non interventionniste. Donc elle a la même mise sur les services sociaux, puis elle va pouvoir être centrale à la survie des Canadiens français.
Donc, quel est un peu le bilan de cette période historiographiquement, toi en tant qu'historien, même d'autres historiens ont pu faire, sur un peu ce bilan de cette genèse grâce à la survivance de la société québécoise?
Pour commencer, on a Fernand Dumont. Fernand Dumont, si on se penche sur ce que c'est écrit dans la genèse de la société québécoise, il va parler de l'hiver, la survivance. Il faut comprendre qu'il ne faisait pas chaud là-bas. En d'autres termes, il faut dire que c'est une époque de repli sur soi, où le peuple canadien-français arrive à une conscience historique. Il est très conscient de qu'est-ce qui se passe par rapport aux écrivains de l'époque. Les auteurs sont là, ils vont essayer justement d'émeubler la conscience collective.
Donc c'est faux de dire que les gens n'étaient pas conscients de leur époque et qu'ils étaient illettrés, déconnectés et tout ça, tel que certains peuvent le dire cette jeunesse de la société québécoise. C'est faux, c'est totalement faux de dire ça.
Ah oui, c'est faux, ils sont plusieurs. Si on pense à ça, il y a Philippe Aubert de Gaspé qui va poursuivre la lutte pour les écrits de de Garneau. Ensuite, tu sais, le champ historiographique de Garneau se termine jusqu'à Lionel Groulx, voire la gang de Frigo, l'École de Montréal. Donc, sont plusieurs. Et qu'est-ce qu'il va dire dans tout ça? C'est que Dumont va surtout en sortir de cette survivance-là que la nation est une entité culturelle. Il y aura une nuance importante entre le politique et le culturel. Culturel dans le sens de sauvegarde des traditions. Face à cette nouvelle conquête, parce que c'est un peu, comment dire, on enlève encore tous les moyens aux Canadiens français, lors de leur union. Donc, on se fait un retour à 1763. On dit au final, bon, ben, on retourne sous le joug d'une certaine manière.
Ouais.
Et ben, Dumont va dire que l'Église est incontournable également là-dedans.
Et ce qui est assez drôle aussi de voir, c'est qu'au-delà de cette genèse, on parle beaucoup donc, de l'importance de l'Église, l'importance de la définition du refus d'assimilation dans le cadre de cette dualité socio-économique et ethnique anglo et franco. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y a un paradigme de la survivance, et ça, c'est un autre auteur qui en a parlé, c'est Gérard Bouchard, dans « Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde », où lui, dans le cadre de ce paradigme, c'est qu'il dit que cette survivance-là a été dessiné par des élites canadiennes-françaises. Ça a été aussi un moyen pour ces élites de pouvoir garder aussi un contrôle. Donc, il n'y avait pas qu'un contrôle de la part de l'élite ecclésiastique, mais il y avait aussi un contrôle de la part d'une élite économique aussi. Et donc, c'était aussi intéressant de voir cet aspect-là.
Oui, c'est ça. Bouchard, il va écrire un peu plus tard, en 2001, je pense, dans Journal des Nations et Cultures du Nouveau Monde, que au final, il y a deux cultures qui vont se créer à peu près. C'est la culture des élites qui va justement comme marquer l'imaginaire, mais il va y avoir également une culture qui va être plus politique. Lui, il va rappeler l'importance de la nature culturelle, la survivance. Il va dire que à cette époque-là, avec les lettrés, on va venir à préserver et célébrer les traditions françaises, perpétuer le culte des origines de la mère patrie et faire revivre la mémoire des ancêtres, réussir leur geste. Donc, c'est vraiment une vision très traditionnaliste de la chose, ou plutôt continuiste. C'est quoi cette histoire-là de continuiste? Pour Bouchard, ça serait de dire que en tant que nouvelle société, on veut continuer ce que la mère patrie pouvait offrir. Donc, pour lui, c'est essentiel.
Est-ce que ce discours de mère patrie, un peu, quand on analyse un peu comment l'histoire se passait à l'époque, allons un peu, je viens en tant que Français, allons au moment de la Première Guerre mondiale où on voyait les Canadiens français arriver en France et arriver pour la première fois dans la mère patrie. Plusieurs générations avant, c'était l'inverse. C'était les Français qui venaient au Canada un peu colonisés. Là, donc, on a les générations suivantes qui viennent défendre la France au moment de la Première Guerre mondiale. Est-ce que cette idée un peu de mère patrie s'exprimait fortement donc, à cette époque et donc a été aussi importante pour marquer tout le joug de la première moitié, par exemple, du XXe siècle?
Ben, si on suit à ces fameux lettrés-là qui écrivent, on va penser à Garneau, qui, lui, est en contact constant avec la France. Donc, c'est super important. Il va y aller, il va aller faire des voyages, avoir des correspondances avec eux. Donc, le sentiment d'appartenance à la France est très important. Et je crois qu'il va quand même perdurer, puisque si on pense à toutes les ce qu'on a voulu faire au niveau des relations franco-québécoises, on pense à Hector Forbes, qui est le premier Canadien-français à partir en France comme délégué québécois, ben ça, c'est assez gros. Donc, ça marque l'imaginaire et un attachement profond à ça.
Et dans le cadre aussi de cette survivance-là, malgré l'attachement à la mère patrie, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont différents, qui un peu poussent cette survivance, sont un peu le carburant de ces survivances, et Bouchard en parle. C'est l'exceptionnalisme culturel, le peuplement, l'Église, évidemment, ça c'est toujours l'invariable, et la construction de la mémoire nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique, Bouchard, sur ces éléments-là?
Ben, premièrement, il va dire que dans son exceptionnalisme, bon, la culture et la nation canadienne française est exceptionnelle. Ça le dit dans le mot en tant que tel. Et on va dire même que cette société-là, elle était mauvaise. Faciliterait la cohésion sociale. Et ça va faire en sorte que ça va créer un discours aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a eu une immigration canadienne française assez importante. Et puis, il y a une vague d'immigrants qui viennent des îles britanniques. Donc, on vient un peu à être inquiet face à une assimilation potentielle, ouais, vu qu'on perd des gens et on en rajoute. Alors, ouais, en fait, ce qu'on va arriver avec ça, c'est la fameuse idée de revanche des berceaux. La revanche des berceaux, c'est quoi? Ben, c'est le peuplement un peu organisé par l'Église et encore dans le rôle de pallier l'immigration. Mais Bouchard va dire que l'Église a un rôle déterminant au niveau de l'accent mis sur la fécondité, que ce soit un levier de la survivance. Mmh. Et qu'est-ce qui va en sortir là-dedans? C'est toujours la construction de la mémoire nationale, parce qu'on voit une idéalisation de la Nouvelle-France, comme on a dit tantôt, avec le souvenir important avec la France, et qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Et sur une reconquête territoriale, ça, je trouve que c'est assez important, puisque le territoire, bon, on voit qu'on va essayer de le coloniser, de prendre, d'envoyer toutes sortes de gens pour le peupler, et il va parler que le peuplement, c'est une œuvre hautement nationale, qu'en fait, on va voir le colon comme un croisé qui voit l'expansion du fait catholique. Puis la main du défricheur va être là avec celle du lettré pour unir toute l'habitation dans un geste civilisateur et continué. Donc, on va voir l'accent de l'agriculturisme.
Ouais. C'est tellement. Donc, à partir de là, on voit un peu cet élément-là. Et tu parlais de peuplement et de colonisation du territoire. C'est des territoires qui, à la suite de la conquête, avait même été abandonné à des grands propriétaires anglais, à des familles anglaises, où un peuplement était beaucoup plus fortement anglophone dans ces endroits-là. Cette revanche des berceaux va pouvoir permettre de faire une revanche tout court sur le peuplement dans ces territoires-là. L'exemple parfait, c'est le développement de la population francophone, par exemple en Estrie ou dans d'autres régions, où là, on a eu un geste de survivance lié à une idéalisation, une reconquête territoriale, qui est hautement symbolique, tel que Bouchard l'explique dans son livre.
Exactement. C'est le peuplement, il vient comme marquer, ben, il vient fondamental dans cette souffrance-là. Que survivre, c'est essentiel, mais si on se penche, on a Éric Bédard, ensuite, qui va en plus en parler.
C'est ça.
Premièrement, il va arriver, puis il va un peu se différencier de Dumont et de Bouchard. Il ne va pas considérer l'époque comme étant un cul-de-sac collectif. Mais lui, il va plus parler de survivants. Quand il parle justement des Canadiens français et non de colonisés. Et on voit justement cet élément-là de peuplement dans l'action qui lui propose de ruse, de résistance, de survivance. Donc on voit que si on bouge un peu dans l'historiographie, il y a un changement de mentalité face à. Pas un changement de regard, un changement de représentation, mais ça vient un peu meubler la mémoire collective, ce peuplement-là.
Est-ce que ce changement de mentalité, ce choc que Bédard essaye d'inclure, essaye de comprendre, passer de survivance à survivant, va un peu changer les jalons de la survivance en elle-même, tel qu'on peut le voir et tel qu'on peut l'entendre depuis le début de ton entrevue avec toi, Gabriel Jarvis? Est-ce que ces jalons de la survivance changent chez Bédard?
Oui, en fait, Bédard aurait quatre jalons de la survivance, quatre piliers. Le premier, il est beaucoup. On l'a vu avec les autres auteurs. En fait, c'est de donner un récit de soi en tant que collectivité. On l'a vu avec Garneau, donc s'inscrire dans le temps, se projeter, marquer l'imaginaire. Mais il arrive avec un autre point qui est l'importance de s'occuper de l'économie. Alors, l'omniprésence du libéralisme. Bédard va dire qu'au final, le développement économique primait dans les esprits de l'élite coloniale et de la bourgeoisie canadienne-française. Mais ça servait, entre autres, à entrer dans la marche du progrès pour conserver la nationalité canadienne-française, mais aussi d'entrer dans l'économie de marché, donc le mérite, le travail, l'effort, donc les belles valeurs qui étaient partagées à l'époque du monde des hommes.
On a aussi la question de régime qui change.
Ben c'est ça. Ça, c'est fondamental parce qu'on est tellement occupé à parler d'économie, à avoir une gestion administrative de la chose, qu'on met de côté le politique. On va dire qu'il n'y a plus de projet de société. Là, le monde va dire, il y a la Confédération. Oui, la Confédération, c'est important. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? C'est juste pour conserver les acquis culturels et religieux. Et le religieux, là, là-dessus, on peut regarder ça de plus proche, où il y a le dernier jalon, c'est un mécanisme compensatoire. Donc, ils auraient une peur du vide des Canadiens français et ils vont se réfugier dans l'Église. Et l'Église va faire en sorte que les Canadiens français vont pouvoir. À défaut d'être un peuple politique, une nation politique, mais une nation morale. Donc, une société pieuse avec des racines chrétiennes. Donc, Godard met vraiment l'accent sur le libéralisme l'absence de politique et bien, la religion qui prime.
Gabriel Jarvis, étudiant à la maîtrise, étudiant à la maîtrise en histoire et détenteur d'un baccalauréat en enseignement secondaire dans l'univers social à l'Université de Montréal. Tu es toujours avec nous pour encore quelques minutes. Donc, on a pu parler un peu de cette question de survivance en général. Qu'est-ce que c'est ? Mais l'autre point, c'est pourquoi c'est encore important aujourd'hui. On peut le voir en ce moment avec toutes les polémiques qu'il peut avoir par rapport aux nationalistes québécois, par rapport à l'idée menace sur la clause dérogatoire que Justin Trudeau fait peser, on a pu le voir depuis le début de l'année, par rapport aussi aux autres questions de notre rapport à la religion qui est différent du rapport à la religion dans le reste du Canada, dans le rest of Canada, comme dirait l'autre. Qu'en est-il aujourd'hui de cette question ? Est-ce qu'on a un retour de l'idée de survie culturelle, mais cette idée de survie culturelle s'exprimerait peut-être d'une bien autre manière du fait des changements que la société québécoise a pu connaître dans les 60 à 70 dernières années, en fait depuis la Révolution tranquille et l'abandon du religieux?
Ben, effectivement, on prend en considération que la société québécoise est entrée dans la modernité. Finalement, on y est et tout, le processus de sécularisation, on est là, puis on ouvre les valves à tout ce qui touche à cette modernité-là, mais en tant que tel, est-ce qu'on a un retour à une survie culturelle? À une survie culturelle, c'est une bonne question. En fait, ça se posait également la question de savoir si le libéralisme de l'époque a été remplacé par un certain néolibéralisme et sa mondialisation et son multiculturalisme. Donc, à savoir si, là, c'est plus juste la peur du progrès britannique et tout ça, mais c'est à savoir si les Québécois ont pas le choix de se retourner un peu sur eux-mêmes pour se rebâtir, se reconstruire dans cette mondialisation-là. On va penser notamment à la langue. Les débats sur la langue, c'est super important en ce moment. D'ailleurs, les chiffres aujourd'hui, je pense que Jean-François Lisée, en date du 1er février, c'était un article sur l'état de l'OQLF et qui parlait le français ou l'anglais dans l'espace public. Donc, ça, c'est des chiffres qui faisaient mal. Allez, l'immigration aussi, c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Donc, là, on a remplacé la laïcité par... on a remplacé finalement la religion catholique par la laïcité.
Par la laïcité.
Donc, c'est ce retour-là.
Et c'est là où Bédard, l'analyse de Bédard revient intéressante, parce que Bédard, maintenant, a mis à jour un peu son analyse de la survivance de l'époque, donc de la survivance du début du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, à une survivance d'aujourd'hui en faisant le lien entre réformistes et politiciens d'aujourd'hui.
Ben oui, exactement. Lui, il se penche là-dessus, c'est qu'est-ce qui a poussé justement à regarder les réformistes, je faisais des parallèles, et la question qu'on peut se poser, c'est a-t-on aujourd'hui un projet de société? Comme il dit, dans ces jalons, il dit qu'au final, dans la survivance, il n'y en a pas. On a eu le cycle de la souveraineté. Aujourd'hui, on en veut, on n'en veut-tu pas? Telle est la question. On voit que les appuis ne sont plus là. On l'a vu justement, qu'on tourne plus vers un autonomisme, un vrai fin de cycle. Puis on le voit justement, qu'on a parlé tantôt, l'opposition entre le fédéral et le provincial. C'est un peu un retour aux vieilles batailles de la Constitution. En adhérant à la Constitution, on peut conserver nos acquis. Et là, aujourd'hui, on fait la même chose. Tu sais, Justin Trudeau, quand il arrive puis il menace la clause dérogatoire, ben c'est ça. Au final, dans la Constitution, dans le Code canadien, dans le Code impérial, il n'y a pas de gain. C'est seulement la conservation des acquis.
Il nous reste 30 secondes, Gabriel. Dernière question, pour une personne qui souhaite aller plus loin et qui souhaite un peu découvrir plus sur ces questions de survivance d'hier et d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais de lire ou d'écouter, surtout des échanges actuels? Tu parlais d'un récent échange entre Gérard Bouchard et Joseph Yves Thériault en préparation d'entrevue. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs?
Ben oui, certainement. Récemment, dans le devoir, je pense, il y avait un échange d'articles où on se demandait si on n'était pas revenu à l'idée de Canadien-Français ou quoi, si on en était rendu sur la question identitaire. Donc, ça serait intéressant de revoir ça au niveau de la mémoire québécoise. Qu'est-ce qu'on fait de ce passé canadien-français-là? Est-ce qu'on en a honte? Est-ce qu'on doit se l'approprier? Alors, c'est assez intéressant de savoir si on est retourné à l'étude de canadienité française et de pousser plus loin. C'est sûr qu'on peut regarder aussi notamment ce qui se passe avec la Grande Noirceur et compagnie. C'est un peu cette fin-là de survivance. Donc, quiconque qui veut lire sa mémoire canadienne peut lire sur la Grande Noirceur ou les livres qu'on a parlé tout à l'heure.
Gabriel Jarvis, tu es étudiant à la maîtrise en histoire, détenteur d'un baccalauréat en enseignement secondaire de l'univers social à l'Université de Montréal. Tu es aussi un ancien de l'univers politique, que ce soit au PQ avant et à la CAQ ensuite. Et on peut te lire récemment dans le Journal de Montréal, dans une lettre de la section « Faites la différence » sur « Mettre le français au cœur de l'éducation ». Tu reviens quand tu veux pour nous parler d'histoire. Merci à toi de ta participation.
Merci beaucoup, Jean-Claude Renard.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour questions d'actualité. Jean-Philippe Trottier revient la semaine prochaine, comme vous le savez. Il reste encore deux épisodes où j'ai le plaisir de le remplacer. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. À demain.